Shalom tout le monde. Excusez mon retard. Nous sommes en plein Perek Relek. Page Daf Tzadik, Amoud Bet. Alors nous sommes à la page Tzadik Amoud Bet, 90B. Dans les photocopies que vous avez, il y a écrit en haut 180, n'est-ce pas? En haut à droite, il y a écrit 180. C'est donc là-bas. 180, ça correspond à la page 90B. Parce que 2 fois 90, c'est 180. Et les dapim, ce sont deux pages. Donc, pour avoir 90B, vous tombez sur 180. C'est très bien. Là, vous avez à la ligne... 6e ligne. Amar Rabbi Yohanan. Alors certains n'ont pas le Amar Rabbi Yohanan, pour ça que c'est entre parenthèses. Minain litriyat ametim minatora. Alors là nous avons une série de textes qui vont poser à chaque fois la même question. Minain litriyat ametim minatora, ce qui traduit et ce qu'on traduit littéralement par d'où savons-nous, à partir de la Torah, qu'il y a la résurrection des morts? Nous allons avoir à ce propos quelque chose comme une quinzaine de réponses. Toutes aussi peu convaincantes l'une que l'autre. Et promets donc de savoir qu'est-ce que ça veut dire, d'où savons-nous qu'il y a la résurrection des morts dans la Torah? Évidemment, c'était un sujet de controverse entre les pharisiens et les sadducéens à l'époque du Deuxième Temple. Mais il y a une question générale qui se pose. Qu'est-ce que veut dire la Gemara quand elle demande « minayin » ? Quand elle demande « minayin ». « Minayin », ça veut dire « d'où ça vient ». N'est-ce pas ?« Minayin », ça veut dire « d'où ». D apostrophe, O, U, accent grave. D'accord ? Alors, cette expression-là, on peut la comprendre de différentes manières. La question, on peut comprendre d'où est-ce que nous savons que c'est vrai, ou bien d'où est-ce que nous avons appris cette chose-là. Ce qui est absolument absurde. Pour raison très simple, vous avez un texte, par exemple, dans Maseret Souka, qui demande d'où est-ce qu'on sait que le fruit qu'il faut prendre à Soukot, c'est un cédra. En hébreu, un étrog. Hein? Péri et Sadar. Dans la Torah, écrit Péri et Sadar. Comment est-ce que tu sais que Péri et Sadar, ça veut dire le étrog. Alors la Gemara amène une série de preuves aussi peu convaincantes l'une que l'autre. Par exemple, que le mot hadar, ça veut dire en grec de l'eau, hudor, hydrologie. Et comme il faut très peu d'eau pour que le étrog puisse pousser, donc ça prouve bien que hadar, ça représente le fruit, c'est le étrog qui pousse sur un peu d'eau, puisqu'en grec, le mot hudor veut dire de l'eau. Oui, bon, je donne un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi, par exemple, péri-etz. C'est un fruit qui est un arbre. C'est-à-dire que le goût qu'a le bois de la branche du hétrog a le même goût que le hétrog lui-même, parce que c'est un fruit qui a le même goût que son arbre, ou que l'arbre a le même goût que le fruit. Vous avez, enfin, des tas de trucs comme ça. Bien, hadar, ça veut dire qu'il réside. Comme il réside sur sa branche d'année en année, parce que si vous ne coupez pas le hétrog, eh bien, il ne s'abîme pas, il reste entier. Donc, ça prouve que Hadar, c'est le Hétrog. D'accord ? Vous imaginez les rabbins discuter comme ça dans le Bétamidrash de savoir qu'est-ce que ça veut dire prier de Sadar, et ils amènent toutes les preuves qu'on a amenées là, et puis ils sont tout contents, après avoir étudié, ils sortent du Bétamidrash, et ils annoncent au peuple juif, vous savez, le fruit qu'il faut prendre à Soukot, c'est le Hétrog. Grand éclat de rire. Et qu'est-ce qu'on a pris l'année dernière, vous croyez ? Bien sûr, on sait la halakha non pas parce qu'on l'a déduit d'un verset, on sait la halakha par tradition orale. On n'a pas besoin des versets pour savoir que quelque chose est vrai. Donc, de même pour la résurrection des morts, d'où est-ce que nous savons que les morts ressuscitent? Eh bien, on le sait par tradition. Point à la ligne. On n'a pas besoin d'un verset pour le prouver. D'accord? Alors, qu'est-ce que veut dire la Guémara quand elle demande d'où est-ce que nous savons qu'il y a la résurrection des morts? Vous avez compris ma question? D'accord. Oui, tu voulais dire quelque chose? On parle d'une opinion, d'accord, ben, d'une émouna, la même chose. Oui, c'est un des fondements du judaïsme, de ce qu'on connaît les fondements du judaïsme. Par tradition orale aussi, la même chose. Par exemple, quand le livre de Bereshit, je crois qu'on avait étudié ça dans Bereshit, la Torah nous dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Alors on a vu que la mauvaise lecture, c'était de penser que la Torah vient nous apprendre que le monde est créé. N'est-ce pas? Vous vous rappelez qu'on avait étudié ça? Quand on écrit, oui, Bereshit, on peut penser que ça veut dire que la Torah vient nous apprendre que le monde est créé. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Ce que ça vient nous apprendre, c'est pourquoi est-ce que le monde est créé? C'est en faveur de Réchit, c'est comme ça que Rashi comprend. C'est en faveur de Réchit que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais alors, d'où est-ce que le lecteur sait que le monde a été créé? C'est supposé, connu du lecteur à l'avance. C'est-à-dire, le lecteur sait déjà que le monde a été créé, mais il se demande pourquoi. Et on lui dit, ben, c'est pour le Réchit. Quel est le Réchit? Aucune importance pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des opinions très importantes de la Torah que nous connaissons a priori par tradition orale, et donc on n'a pas besoin du verset pour le savoir, y compris la résurrection des morts. D'accord? Oui. Alors le problème, c'est de savoir exactement à quoi ça sert de citer un verset dans la Guémara. D'accord? C'est ça la question que je pose. Vous aurez une réponse bientôt, si vous me laissez répondre. Oui. La résurrection des morts. Ça veut dire autre chose. Alors, peut-être. Je ne sais pas encore. Je suis encore pour l'instant à expliquer qu'il y a une question. D'accord? Donc, dans la phase du cours où j'explique la question, ce qui m'intéresse, c'est la question. La réponse, pour l'instant, je m'en fiche pas mal. D'accord? Mais ce qui est important donc de comprendre, c'est que aussi bien les halakhot que les opinions de la Torah, nous les connaissons par tradition. Après, c'est écrit dans le verset, mais c'est pas le verset qui en est la source. Alors la question qui se pose, c'est de savoir à quoi sert d'amener un verset. Alors par exemple, quand il s'agit d'une halakha, le verset vient nous éclairer le sens de la halakha. Par exemple, pour le etrog. Pourquoi est-ce que la Torah nous a dit, pourquoi est-ce que la tradition orale nous a dit de prendre un etrog? Eh bien, la tradition, le verset va nous expliquer, la loi écrite va nous expliquer que c'est parce que ça pousse sur l'eau. Et que le mot hadar, en grec, veut dire de l'eau. Ou bien parce que ça réside sur la branche d'année en année, ce qui est en allusion dans le mot hadar. Mais vous comprenez, toutes ces choses-là sont simplement l'explication de la chose, et pas l'origine de la chose, pas la source. J'en sais rien. Non, je pourrais rentrer là-dedans, mais comme ce n'est pas le sujet du cours, j'en parlerai pas. Oui, mais comme ce n'est pas le sujet du cours, j'en parlerai pas. Pour raison très simple, quand je cite quelque chose qui est parallèle à notre étude, c'est uniquement dans la mesure où ça éclaire notre étude. Et je ne veux pas commencer à étudier le texte là-bas. Donc je refuse de répondre à la question. Hein? Voilà, c'est sympa. Hein? Bon, en tout cas, c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que les textes de la Torah, nous sont amenés pour expliquer ce que nous savons déjà, pour donner un éclairage, si vous voulez. Alors, maintenant, pour ce qui est de la résurrection des morts, ça va en faire beaucoup plus loin. Le problème dans la résurrection des morts, c'est que on dit, bon, nous autres, les Juifs, nous croyons à la résurrection des morts. Je veux bien. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire que les morts ressuscitent? Tu n'as aucune idée de ça. C'est-à-dire, nous n'avons pas la connaissance existentielle de ce que c'est qu'une vie éternelle, une vie sans mort. On ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ce sont des notions extrêmement loin de nous. Et donc on se demande, qu'est-ce que la Torah a fait pour que nous puissions avoir un peu d'intuition de la résurrection des morts? Est-ce que la Torah a veillé à éveiller en nous cette connaissance? D'accord? Et donc, c'est ça que va se poser la question de la Gemara. C'est là que se pose la question de la Gemara. Minaï nitriyat amiti mina Torah. Qu'est-ce que la Torah a fait pour que nous puissions avoir un peu d'entendement de ce que c'est que la résurrection des morts? Vous comprenez maintenant le sens de la question? Vous comprenez maintenant le sens de la question? Oui, oui, existe, bien sûr. Bon. Baruch Hashem. Quelque chose n'est pas clair? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Je vais reprendre ce que j'ai dit. La résurrection des morts, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut me demander de croire en quelque chose que je ne comprends pas, dont j'ai aucune idée? Tu comprends? La même chose. Comment est-ce que je peux parler de Dieu alors que je ne sais pas qui il est? D'accord? Donc, l'idée d'avoir la foi en Dieu aussi est un problème. De même qu'avoir la foi en la résurrection des morts aussi est un problème. Donc, il faut que la Torah organise son message de telle sorte que je puisse avoir un contact, aussi ténu que soit-il, avec cette idée de la résurrection des morts ou l'existence de Dieu, etc.
De toute façon, on a fait la scène du choix.
Et alors? Je veux bien, mais là, on me demande de croire en quelque chose. En quoi? D'accord? Il faut que j'ai une intuition. Ça n'a rien à voir avec le Nasevinishma. Nasevinishma, c'est-à-dire, j'accepte pour comprendre après. Mais je dois savoir qu'est-ce que j'accepte. D'accord? D'ailleurs, la fameuse phrase de Nasevinishma, on oublie qu'en fait, elle est un bout de phrase. Dans la phrase en entier, c'est Kol Asher Diber Hashem, Nasevinishma. Tout ce que Dieu a dit, nous allons le faire pour l'entendre. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, nous l'avons donc entendu, nous allons le faire pour l'entendre une deuxième fois. D'accord? C'est pas, disons, de l'arbitraire. C'est au contraire, c'est quelque chose que nous avons commencé à comprendre. Nous avons seulement commencé. Pour mieux le comprendre, nous allons le faire. Une fois que nous allons le faire, nous allons le recomprendre. D'accord? Alors, la même chose se pose ici, de savoir, la question qui se pose ici, c'est de savoir, mais qu'est-ce que la Torah nous donne comme indication de ce que c'est que la résurrection des morts, pour qu'on puisse comprendre quel est le sujet de cette émouna. D'accord? Maintenant, la réponse est claire? Maintenant, si tu veux, tu peux proposer une autre réponse, puisque nous sommes passés au moment du cours où nous parlons des réponses. D'accord? Eh bien, nous allons donc continuer et voir qu'est-ce que propose Rabbi Yochanan. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, alors là, nous avons un verset de Bamidbar, chapitre 18, qui va nous expliquer ce que c'est que la résurrection des morts. Untatem mimenu et terumat Hashem le Aharon haKohen. Vous en donnerez la dîme de Dieu à Aharon le prêtre. Vous avez compris? La Torah dit quand on a un champ et qu'il y a la récolte du champ, il faut en donner une dîme, un prélèvement, que l'on donne à Aharon. D'accord? C'est ce que dit le verset. Vechi Aharon leolam kayam, est-ce qu'Aharon vit éternellement? Vahalo lo nichnas l'Eretz Israël shenotnim lo truma, alors qu'il n'est même pas entré en Eretz Israël pour qu'on puisse lui donner le prélèvement. Le prélèvement des champs, ça se fait en Eretz Israël. Or, la Torah dit qu'il faut donner le prélèvement des champs à Aharon. Or, Aharon est mort avant d'entrer en Eretz Israël. Contradiction. Et là, donc, Melamed, cela nous enseigne, chez Atid Lichyot, qu'il va un jour revivre. Ve Israël, not nimlo teruma, et Israël lui donnera son prélèvement. Mikan litriat amitim, minatora, c'est ça l'origine de la résurrection des morts selon la Torah. D'accord? Donc comment est-ce qu'on sait qu'il y a résurrection des morts? Puisque la Torah dit qu'il faut donner la Trouma à Aaron. Or, Aaron, ça ne s'est jamais réalisé, donc il faut bien qu'il revive un jour pour qu'on puisse lui donner la Trouma. C'est convaincant, hein? Comment? C'est recherché. Comment est-ce que vous avez compris, vous, qu'on donne à Aaron? À sa descendance. Alors pourquoi, dans ce cas-là, la Torah n'a-t-elle pas dit au Kohen? Pourquoi à Aaron le Kohen?
Il y a
beaucoup d'endroits où la Torah dit on donne ça au Kohen. Il n'y a pas écrit à Aaron. Pourquoi dans ce cas précis la Torah a-t-elle dit à Aaron? Oui. Oui, et alors? Mais pourquoi dans ce cas précis la Torah a indiqué ça? Ah, oui, non, mais on essaie d'interpréter sans passer par la résurrection des morts.
Bah,
C'est-à-dire, il faut trouver un Kohen qui ressemble à Aaron. Parce que la dîme, c'est quand même une somme importante. Alors, on ne va pas donner ça à n'importe quel Kohen. Bonjour, monsieur Kohen. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu prendre mon prélèvement. Oui, mais enfin, monsieur Kohen, on sait que vous avez eu des démêlés avec la police, que vous avez trahi votre femme, que vous êtes un salaud, quoi, de manière générale, et vous voulez qu'on vous donne la trouma. Vous ne ressemblez pas du tout à votre ancêtre à Aaron. Il faut trouver donc un Kohen qui ressemble à Aaron. D'accord? Effectivement, c'est ce que dit Rabbi Ishmael. Deve Rabbi Ishmael Tana, dans la maison de Rabbi Ishmael, on enseignait, les Aaron, Aaron, ke Aaron. Il faut que ce soit quelqu'un comme Aaron. Ma Aaron haver, af banav haverim. De même que Aaron est un sage, il faut que ses enfants soient des sages. Haver veut dire un sage avec des qualités morales. C'est-à-dire, il faut, de même que Aaron était quelqu'un d'extrêmement moral, une morale très élevée, il faut que ses descendants, à qui je donne la trouma, soient méritants. D'accord? Donc on voit bien que le verset ne parle pas forcément de triadam etim, n'est-ce pas? Alors, comment comprendre ce que disait Rabbi Yochanan, qu'il faut trouver que c'est la preuve de la résurrection des morts? En fait, ça veut dire une chose très importante. Dans la vie des Hébreux, en terre d'Israël, dans l'Antiquité, comment se passait la vie? Eh bien, c'était des agriculteurs, n'est-ce pas? Ça me gêne. Mais c'était des agriculteurs. À quoi un agriculteur passe son temps? Eh bien, il fait pousser la récolte, il fait pousser son champ, il récolte, et puis d'année en année, le temps passe, une génération passe, les descendants de l'agriculteur continuent, et ainsi de suite. Dans cela, on n'a pas le sentiment de l'éternité, on a au contraire le sentiment de la mort en permanence. C'est-à-dire, une génération passe, une autre génération vient, etc. Mais il y a dans la vie de ces agriculteurs une institution qui, elle, est permanente. C'est le Beth Amikdash. Et dans le Beth Amikdash, il y a des individus qui représentent le Beth Amikdash. Ce sont les Kohanim. Et quand je rencontre les Kohanim, j'ai le sentiment de la rencontre avec un élément d'éternité qui traverse la vie éphémère. C'est-à-dire, les générations passent, donc c'est la mort qui l'emporte, mais à travers toutes ces générations, il y a une institution permanente dans laquelle la Shekhina réside, et ça me donne donc l'intuition de la résurrection des morts. Il y a quelque chose dans le Kohen qui est un témoignage de l'éternité. C'est ça que dit Rabbi Yochanan. C'est pas clair? C'est pas clair. C'est clair. Génial. Oui? Vas-y. Ah, très bon. La question est très bonne. Le Beth Amikdash n'a pas tout le temps existé. Si, on faisait la Trouma. Oui, aujourd'hui aussi on fait la Trouma. Rien qu'aujourd'hui j'ai fait la Trouma. Mais le problème, oui. Bon, mais ça c'est pas notre problème. Le problème c'est que cette réponse est bonne pour quelqu'un qui vit dans une société très déterminée, la société des Hébreux dans l'Antiquité. N'est-ce pas? C'est pour les Hébreux de l'Antiquité, le Kohen, c'est le témoignage de Triat Hametim. Donc c'est bon pour les Hébreux. C'est pas bon pour nous. La réponse qu'a donnée Rabbi Yochanan est bonne pour des Hébreux, mais elle n'est pas bonne pour les Juifs. Qui sont les Juifs? Les Juifs sont les descendants des Hébreux. C'est-à-dire, nos ancêtres étaient des Hébreux, et ils vivaient donc sur leur terre à la manière dont la Torah parle, une société agricole avec un Beth Amikdash au milieu, et puis un beau jour, ça a disparu. Quand ça a disparu, nous sommes devenus des Judéens. Les Judéens en exil s'appellent des Juifs. Ah, ça c'est encore une autre question. Oui, nous sommes en train de redevenir des Hébreux. Nous sommes aujourd'hui des Hébreux d'origine juive. Oui, mais le témoignage de la Triat Hametim n'existait plus. C'est ça qu'on cherche. On cherche à savoir où est-ce qu'il y a un élément d'éternité qui traverse notre existence pour nous donner un sentiment de Triat Hametim. D'accord? On n'a pas tout le temps été là. On est revenu seulement en 1948.
Oui, mais c'est le peuple juif, même si on revient en Israël, il a toujours été. On a toujours resté juif, on n'a pas perdu.
Donc tu veux dire qu'à travers l'éternité d'Israël, Il y a également ce sentiment. Il faut le prouver. Effectivement, si vous sautez quelques lignes, vous tombez sur Tania Rabbi Simaï. Vous voyez, avant que les lignes s'élargissent, vous avez la troisième ligne avant l'élargissement. À la fin de la troisième ligne, il y a écrit le mot Tania. Vous y êtes ? Tania Rabbi Simaï Omer. On enseignait au nom de Rabbi Simaï. Minai nitriyat amiti mina Torah. D'où savons-nous qu'il y a la résurrection des morts dans la Torah ? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Vega makimoti itam, et beriti itam, la tête de la Meteretz Kenaan. J'ai décidé d'accomplir mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Kenaan. De qui ça parle ? Qui c'est eux ? Les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dieu dit à Moshe, j'ai décidé d'accomplir mon alliance avec eux, c'est-à-dire avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour leur donner le pays de Kenaan. Le problème, c'est que lorsque Dieu a dit ça à Moshe, Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient déjà morts. Comment est-ce que Dieu peut leur donner la terre de Kenaan alors qu'ils sont déjà morts ? Hein ? À leur descendance, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il y a écrit ici. Lachem lo ne'emar, à vous, il n'est pas dit, et la lahem, mais à eux. Mika nitriat amiti mina Torah, ce qui prouve la résurrection des morts selon la Torah. Ça veut dire que, à prendre ça littéralement, Avraham, Yitzhak et Yaakov doivent ressusciter pour prendre possession de leur terre. D'accord ? Bien embêtant, parce que s'ils ressuscitent et qu'ils vont prendre possession de leur terre, et nous alors ? D'accord ? Et comme vous l'avez si bien dit, donner la terre aux Avot, ça veut dire à travers leur descendance. Ça veut donc dire, ça revient un peu à ce que vous dites. Le retour d'Israël sur sa terre à travers un exil prolongé, c'est une résurrection des morts. Le peuple était mort pendant tout le temps de l'exil. Il ressuscite en retrouvant sa terre.
Il ressuscite tous les morts ?
Oui, le peuple d'Israël était un mort.
C'est-à-dire Moshe
Rabbeinu sera ressuscité ? Oui, mais tu n'as pas compris ce que j'ai répondu. Alors je reprends. Quand je donne une réponse, en général, je veux donner une idée que le questionneur n'a pas compris. Je reprends. L'exil est une mort. Revenir sur la terre est une résurrection. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a un élément dans l'histoire d'Israël qui nous donne une indication de la résurrection des morts, même quand il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est quoi cet élément ? Le retour. Tu as compris ce que je dis ? La question n'est pas de savoir qui va ressusciter ou pas. On ne parle pas ici de la résurrection des morts en tant que telle. On cherche un indice dans notre histoire qui va nous donner une idée de la résurrection des morts. C'est ça qu'on cherche. Eh oh ! D'accord. Mais ce n'est pas la question qu'on pose maintenant. C'est pas... Je vais t'expliquer. Il y a deux formes de résurrection. Il y a la résurrection individuelle, que, Inch'Allah, elle aura lieu un jour. D'accord ? Il y a une autre résurrection, c'est la résurrection nationale. C'est une nation qui était morte, qui revit. C'est une autre forme de résurrection des morts. Ta question parle de la première sorte dont nous avons parlé. Et moi, je parle de la deuxième. T'as compris la différence ? Ouais. Donc, nous parlons ici, ça veut dire qu'en fait, il y a la résurrection des morts nous est connue à travers le sionisme. C'est-à-dire le retour d'Israël à sa terre, nous dit Rabbi Simaï, c'est l'indication qu'il y a une résurrection des morts. D'accord ? C'est Rabbi Simaï. La preuve, c'est que c'est écrit. Oui ? Vas-y.
Vous avez dit que la terre est un cadeau à Abraham, Isaac et Jacob. Mm-hmm. Ça veut dire que tant que ce n'est pas là, alors la terre ne s'appartient pas vraiment ce cadeau à
Nous avons la terre nous appartient par droit d'héritage. Venatati ota lachem morasha. Je vous la donnerai en héritage. C'est écrit dans le même texte qui est cité là. Oui. Est-ce que j'invente ou est-ce que je dis vrai ?
Non, pas est-ce que c'est-à-dire que quand on va parler de triat amitim, à chaque fois on parlera de deux triat amitim différentes ?
Il y a cinq triat amitim différentes. Par exemple, la guérison. La guérison, c'est une des formes de triat amitim. Quelqu'un est malade, il est un peu mort. Il guérit, il ressuscite.
Dormir aussi ?
Hein ?
Dormir aussi.
Dormir aussi, on le dit tous les matins. Amachazir neshamot nitra les permettim. D'accord ? Celui qui sort de prison.
C'est
ouais.
La
oui, bien sûr. Il y en a encore d'autres. Mais vous n'avez qu'à étudier mon cours sur la prière, sur la bracha de Zmichaya Metim. Là-bas, j'explique toutes ces choses-là. Oui. Oui. Oui, mais il y a écrit la tête Lahem. La tête Lahem est Eretz Kenan, de leur donner à eux. C'est ça le problème que pose Rabbi Simaï. S'il y avait écrit Lachem, ça irait, mais il n'y a pas écrit Lachem, il y a écrit Lahem. À eux. C'est-à-dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui. De Triat HaMetim. Je ne sais pas ce que c'est Triat HaMetim, mais je veux avoir une idée. D'accord ? Quelque chose qui ressemble. Quelque chose que je connais. Alors qu'est-ce que je connais ? Par exemple, le retour d'Israël. C'est-à-dire, l'interprétation donnée par Rabbi Yochanan est une réponse pour les Hébreux, et celle de Rabbi Simaï, c'est pour les Juifs. Oui ? Non, mais on l'a par droit d'héritage. C'est vrai que s'il y avait écrit que la Hem, alors ça veut dire que ce n'est pas à nous. Mais en vérité, on a pris possession de la terre par droit d'héritage. Comme il est dit, Venatati ota lachem, mon rachat. Je vous la donnerai en héritage. Ani Hachem, je suis l'éternel. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il existe, dans les générations qui sont précédées là, des Gilgoul de Adaroth ?
Des Gilgoul de quoi ? D'ailleurs, ce que tu dis ici, c'est que la Gemara ferait allusion à la doctrine du Gilgoul. C'est possible. C'est possible. Bon. Je reviens à... Vous avez remarqué que j'ai sauté plusieurs lignes, quand même. Oui.
Peut-être avec la M. Peut-être hein? Quand il dit la M, peut-être qu'il ne parle pas aux Juifs, mais parle à quelqu'un d'autre, pour dire qu'ils donneront à Abraham, Yitzhak et Jacob et au peuple juif.
Non.
Et qui parle avec d'autres personnes qui sont
non. Il parle aux Hébreux. C'est dans le texte, dans Shemot. C'est au début de la parasha de Vayera. Bon. Alors, je vais revenir maintenant un petit peu en arrière. Nous en sommes. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Vous voyez, à partir du haut, il faut compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lignes. 14 lignes à partir du haut. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel Bar Nachmani disait au nom de Rabbi Yonatan. Minayin shen notnim truma le kohen amaretz. D'où est-ce que nous savons qu'on n'a pas le droit de donner un prélèvement pour un kohen ignorant? Ignorant, ça veut dire immoral. Shenema, ainsi qu'il est dit, Vayomer la'am li yoshvei Yerushalayim, et il dit au peuple qui habitait à Jérusalem, la tête menat à kohanim valviim de donner la part des Kohanim et des Lévim, les ma'an yahezku betorat Hashem, afin qu'ils se renforcent dans la loi de Dieu. Ce qui veut dire, kol ha-mahazik betorat Hashem, yesh lo menat, vesheno mahazik betorat Hashem, en lo menat. C'est-à-dire, celui qui soutient la Torah de Dieu, il a sa part. Celui qui ne soutient pas la Torah de Dieu, il n'a pas sa part. Hein? Pourquoi il n'y a pas de Tosfot? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il faut que j'y réponde hein? Non, je vais te répondre maintenant. Il n'y a pas le Tosfot parce qu'ils n'ont pas écrit de Tosfot là-dessus. D'accord?
Il n'y a
pas sur toute la Torah, c'est-à-dire? Pas toujours un Tosfot. Parfois il y a, parfois il n'y a pas. D'accord? Vécheno, donc, nous voyons que la Terouma est donné a priori à ceux qui soutiennent la Torah de Dieu. Amar Ravacha bar Ada, Amar Rav Yehuda. Ravacha bar Ada disait au nom de Rav Yehuda, Kol anoten teruma le kohen am haaretz, tout celui qui donne un prélèvement à un kohen ignorant, kilu notna lifne ari, c'est comme s'il a donné à un lion. Ma ari, de même que le lion, safek dores veochel, safek eno dores veochel. Quand un lion s'empare de sa proie, Parfois, il s'en empare et il la mange tout de suite. Parfois, il la laisse faisander et il la mange plus tard. Af Kohen Amaharet, de même le Kohen ignorant, Safek Kochla Betahara, Safek Kochla Betouma. Peut-être qu'il va la manger en pureté, peut-être qu'il la mangera sans pureté. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan disait, Af Gorem Lomita, il lui entraîne la mort, Chene Emar, ou Metubo ki Yahalelu, ils en mourraient de l'avoir profané. Deve Rabbi Eliezer ben Yaakov, et chez Rabbi Eliezer ben Yaakov, Tana, on enseignait, Af Masio Avon Ashma, il le rend coupable. Il les amènerait à être coupables lorsqu'ils mangeraient les choses saintes. C'est quoi tout ça, ce qu'on vient de lire? Ça explique que l'institution des Kohanim peut parfois se dégrader. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Le Beth Amikdash n'a pas tenu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenu? À cause de la dégradation du peuple, qui était également la dégradation des Kohanim. Le fait d'être né Kohen, ça n'engage pas toujours à réussir. Et donc, il peut y avoir des problèmes, c'est pour ça qu'il faut une autre réponse pour ceux qui partent en exil. Et la deuxième réponse, c'est celle qui est donnée par Rabbi Simaï, qui dit que nous connaissons la résurrection des morts par le retour d'Israël, c'est-à-dire par le sionisme. Jusque-là, vous suivez? Bon. Maintenant, les trois manières là, d'expliquer pourquoi les Kohanim à Maharetz ne sont pas des bons Kohanim, l'un, c'est pour un problème de relation entre l'homme et Dieu, Torah Tachem. L'autre, c'est à cause d'un problème de safek, d'un doute, c'est-à-dire quelque chose entre l'homme et lui-même. Et également, quand il lui cause la mort, c'est un problème de relation ben Adam, lachavero, de relation de l'homme à l'homme. C'est-à-dire, les dégradations sont toujours possibles de trois niveaux sur le plan moral, ben Adam lamakom, ben Adam lachavero, ben Adam leasmo. Oui? Oui, faire mourir quelqu'un, un assassin, faire mourir quelqu'un, c'est la... Faire mourir quelqu'un, quelle que soit la manière, c'est une atteinte à la relation normale, ben Adam la Chavero, de l'homme envers son prochain. Je crois. La pire des choses que je puisse faire à un autre homme, c'est de le tuer, ou de causer sa mort. Bon, donc pour l'instant, nous avons deux réponses intéressantes pour savoir d'où est-ce que nous avons l'intuition de Triat Hametim. L'une qui est adressée aux Hébreux, c'est-à-dire l'Hébreu connaît la Triat Hametim par la permanence du Beth Amikdash dans les générations éphémères, et le Juif connaît la résurrection des morts lorsqu'il voit la résurrection nationale, le retour en Eretz Israël. Ça c'est Rabbi Simaï. Jusque-là vous avez compris? Hein? Quoi, il y en a qui ne savent pas que l'État d'Israël a été fondé? Ils ne croient pas que l'État d'Israël a été fondé? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un était malade, il était en danger de mort, et maintenant, il est sorti de ça, mais il a la grippe. Donc, comme il a une grippe, tu diras, c'est pas une guérison. Il avait un cancer. Il s'en est sorti, mais il a la grippe. Et puisqu'il a la grippe, ce n'est pas une guérison.
C'est une guérison. Mais lui, s'il ne le sait pas, il ne faut pas que vraiment ça guérisse. Lui, il ne le sait pas.
Ah, c'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas que le soleil brille. D'accord, ça arrive. Ils ont besoin qu'on leur explique.
Là, ça veut dire que c'est le fait que le triathlon, c'était le fait qu'un retour de l'Israël, en Israël.
C'est pas ça, la triathlon. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que le retour d'Israël sur sa terre est une indication de Triat Hametim. C'est-à-dire, si une nation qui était morte a pu revivre, alors il est possible également que l'individu qui était mort revive.
Pour le Kohen,
non, non, pas du tout. Le Kohen pas méritant est une des raisons pour laquelle le Beth Amikdash peut être détruit. Et si le Beth Amikdash peut être détruit, Le signe évident de Triat Hametim dans la vie des Hébreux disparaît. Donc il faut un autre élément. Non. Ça veut dire que ce que dit Rabbi Yochanan, qui est que le Kohen est la preuve de Triat HaMetim, ce n'est bon qu'à une certaine époque de l'histoire, à une époque où nous sommes des Hébreux, c'est-à-dire nous sommes sur notre terre avec le Beth Amikdash. Mais à une époque où nous ne sommes pas dans cette situation, c'est le retour d'Israël qui est l'indication de Triat HaMetim. D'accord ? D'accord. Bon, tout cela est donc bon pour des Hébreux ou pour des Juifs. Il y a un élément commun aux Hébreux et aux Juifs, ce sont tous des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais que faire pour ceux qui ne sont pas dans la collectivité d'Israël, qui sont à l'extérieur? Est-ce que eux aussi, comment tu dis? On s'en fout. On s'en fout. C'est la question qui se pose. Effectivement, est-ce qu'il est important pour nous que ceux qui sont à l'extérieur aient la connaissance de Triat HaMetim ou pas? D'accord? C'est une question très importante. Toi, tu as déjà fait une halakha, tu as déjà décidé que la halakha est qu'on s'en fout. Non, c'est possible.
C'est possible même que les halakha peuvent aller même plus loin que ça. C'est possible que même les y croient, ils se mettent à mystifier.
Oui.
Et à dire que la religion juive, c'est l'imposture, c'est une
culture. D'accord. Alors, je suis tout à fait d'accord. Mais la question se pose quand même. Ouais. D'accord. Alors, au niveau de l'étude, ça va être posé ici. Sha'alou minim et Rabban Gamliel. Vous passez aux lignes larges. Après les parenthèses, Sha'alou minim et Rabban Gamliel. Les minimes ont demandé à Rabban Gamliel. Qui sont les minimes? Non. Minimes, ce sont les premiers chrétiens. C'est des juifs, mais qui commencent à se situer dans l'extérieur du judaïsme. Et ils demandent à Rabban Gamliel, Minayin she'akadosh baruch hu mechaye metim. D'où savons-nous que Dieu ressuscite les morts? D'accord? C'est-à-dire que la Guémara se demande d'où est-ce que les minimes vont savoir que la résurrection des morts est possible? En fait, ce qui va se cacher derrière ce texte, c'est un débat extrêmement profond entre le christianisme et le judaïsme. Est-ce que les chrétiens croient en la résurrection des morts? Oui. Sur la base de quoi? Il y en a un qui est ressuscité. D'accord?
Ils disent... C'était pas un homme.
Oui, mais ils disent que c'est suffisant pour savoir. C'est-à-dire, il y en a un qui a ressuscité, et donc c'est la preuve de la résurrection des morts. D'accord? C'est ce qu'ils disent, eux. Ils ont pour ça, d'ailleurs, beaucoup de conséquences, parce qu'ils disent que puisqu'il y a eu la résurrection des morts, la Torah est abolie, et tas de choses comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont refuser... c'est-à-dire que, si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'ils vont voir Rabban Gamliel pour lui demander d'où est-ce qu'on sait que les morts ressuscitent? Puisqu'ils y croient déjà. Mais ils y croient par Jésus. Ils n'y croient pas par la Torah. Et c'est ça le débat qu'il va y avoir entre Rabban Gamliel et eux, pour savoir si c'est la Torah qui nous indique la résurrection des morts, ou s'il faut quelqu'un d'autre. Oui ?
Est-ce qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il y avait Jésus en fait ?
Non, il était déjà mort.
Ah, c'était déjà passé.
Oui. Le fondateur du christianisme s'appelait Paul. Il était élève de Rabban Gamliel. Donc c'est peut-être pour là, et il y a peut-être ici une allusion donc au paulinisme. Dans cette histoire-là. C'est-à-dire que nous savons par tradition, les chrétiens aussi le disent, que Paul était un élève de Rabban Gamliel. Hein? C'était un juif, oui, Paul était un juif. Ouais. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est impossible. Bon. Sha'alou minim, donc les minimes demandent à Rabban Gamliel, Minayin she'akadosh baruch hu mechaye metim. D'où est-ce que nous savons que le Saint béni soit-il ressuscite les morts? Amar Lahem, il leur a répondu, Mina Torah, ou Mina Nevi'im, ou Mina Ktubim. Nous le savons par la Torah, nous le savons par les prophètes, et nous le savons par les hagiographes. Velo kiblou mimenu, et ils n'ont pas accepté les preuves de Rabban Gamliel. On va essayer de voir quelles sont les preuves amenées par Rabban Gamliel et pourquoi est-ce que les chrétiens ne les acceptent pas. Et pourquoi est-ce que nous les acceptons quand même. Alors la première preuve, c'est la suivante. Mina Torah, de la Torah, on le sait, dirtiv, parce qu'il est dit, Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Hincha shochev imavotecha, tu vas coucher parmi tes ancêtres, c'est-à-dire tu vas mourir, vekam, et te relever. Donc on voit bien que la Torah dit en toutes lettres que Moshe va mourir pour se relever. Donc il y a résurrection des morts. Incha shochev imavotecha vekam. D'accord ? Ça, vous trouvez ça convaincant, vous ?
Non.
Pourquoi non ?
Parce qu'on pourrait penser que quand il dit tu vas coucher par mes ancêtres, c'est pas Moshe en lui-même, peut-être que c'était la nation.
Non, c'est dit dans la Torah au moment où Moshe va mourir. D'accord ? Alors pourquoi c'est pas convaincant ce verset ?
Il parle d'un cas particulier pour arriver au général.
Ouais, donc ça sera encore mieux. Simplement, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas lu le verset en entier. Le verset en entier dit comme ça. Vayomer Hashem el Moshe, et Dieu dit à Moshe, Incha shochev imavotecha, tu vas coucher parmi tes ancêtres, vekam ha'amazé, et ce peuple se lèvera, vezana achari lo incha ra'aretz, pour se prostituer auprès des divinités du pays, ve'azavuni ve'efer et biriti, ils m'abandonneront et transgresseront mon alliance, Asher Karati Ito, que j'ai conclu avec lui. Donc, Vekam, c'est le début de la suite de la phrase qui dit Vekam ha'amazé. Ce peuple se lèvera, Vezana harilonera, et se prostituera auprès des dieux étrangers. D'accord ? Remarquez la politesse des chrétiens quand ils lui répondent. Amroulo, ils lui ont dit Vedilma, peut-être, il faut lire Vekam ha'amazé Vezana, que le Vekam se relèvera. Ne s'adresse pas à Moshe, mais s'adresse au peuple qui se lève après. Comment vous trouvez leur réfutation ? Pourquoi pourri ? Ouais. Elle est très bien. Elle est logique. Donc vous êtes du côté des chrétiens. C'est sympa. Vous étudiez dans une yeshiva, à Machon Mir, tout ça. Maintenant, vous prenez le parti pour les chrétiens. Un peu d'esprit de clan, quand même. Oui. Il faut comprendre, en fait, ce que ça veut dire. Il y a un petit problème. C'est vrai qu'il faut lire Vekam ha'amazé. Mais le problème, c'est savoir, qu'est-ce que va faire ce peuple en se relevant ? Il va se prostituer auprès des idoles. Ça s'appelle se lever ou chuter ? Alors pourquoi est-ce que la Torah dit Vekam ? Comment ? Non, c'était pas de vous. Il faudrait dire Venafal à Amazé. Ce peuple tombera. Au lieu de dire Vekam, il va se lever. Ça veut donc dire qu'il y a une allusion de la Torah au fait que le Vekam a un rapport avec la phrase d'avant, qui est Shochav imavotecha. D'accord ? Maintenant, donc, le Vekam, c'est vrai que, comme tu dis, ça fait partie du processus. Il faut que Moshe meure pour que le peuple puisse se relever. En se relevant, il va faire des bêtises. En faire des bêtises, mais il va se relever en fin de compte. D'accord ? Maintenant, si vous réfléchissez bien, ça va encore plus loin. S'il n'y avait pas écrit le mot Vekam, il y avait simplement écrit tu vas te coucher parmi tes ancêtres. Pourquoi la Torah ne dit pas mourir ? Tu vas mourir. Pourquoi est-ce que la Torah dit tu vas te coucher ? Parce que se coucher, ça veut dire se relever. Ça veut donc, c'est même sans l'expression Vekam, sans le mot Vekam, déjà le mot Shochev veut dire la résurrection des morts. D'accord ? C'est-à-dire que ce que le Vekam ne fait qu'insister. Mais déjà en soi, le Shochev dit déjà la résurrection des morts. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le chrétien ne peut pas lire ça comme ça ? Essayez de voir le verset. Qu'est-ce que dit le verset ? Le verset dit... Voyons ce que dit le texte. La Torah dit comme ça, à Moshe, tu sais Moshe, jusqu'à présent tu as fait du bon travail, tu as fait sortir le peuple d'Israël, tu leur as donné la Torah, tu leur as donné à manger pendant 40 ans, et maintenant tu vas mourir, tout ça, ça va s'effondrer. Tout le projet va rater. Est-ce qu'on peut admettre une chose pareille ? C'est évident que, puisque la Torah est optimiste, et que si elle dit que tout tient... Uniquement si Moshe est là, ça veut dire que Moshe doit revenir. Mais pour le chrétien, au contraire, selon la théologie chrétienne, le peuple juif est tombé pour ne plus se relever. Donc, la lecture du verset à la manière des chrétiens implique justement qu'il n'y ait pas de résurrection des morts, que Moshe ne ressuscite pas. Vous avez compris ? Ouais. Donc, il n'accepte pas cette idée que, à partir de la Torah, on a la résurrection des morts. Mais ça vient d'une approche pessimiste par rapport à l'histoire d'Israël, tandis que Rabban Gamliel a une approche optimiste de l'histoire d'Israël. Donc pour Rabban Gamliel, ça veut dire que Moshe doit revenir. Pour les chrétiens, ça veut dire que Moshe ne doit pas revenir. Passons à la deuxième preuve.
Ils en font quoi, les chrétiens, du mot ils se
lèvent Vekam a amazé, ce peuple se lèvera.
Il y a une différence entre se lever et se relever en hébreu ou pas?
Non.
C'est la même
chose. C'est la même chose. Ouais.
Est-ce que la phrase pour le peuple là, sans Vekam, elle marche aussi?
Non. Mais on peut vous dire Vezana a amazé. Si tu mets ça dans cet ordre-là, mais tu aurais pu mettre ça dans un autre ordre. On pourrait dire « Vezana ha'amazé ». Et dans ce cas-là, le mot « kam » aurait été superflu. D'accord ? Donc, il y a une deuxième preuve. La deuxième preuve, c'est quoi ? Eh bien, c'est quoi la deuxième preuve ?« Minanevim » à partir des prophètes. « Dirtiv » ainsi qu'il est dit « Yahyu metecha » c'est un verset dans Isaïe, dans Yeshayahu. Chapitre Kafvav. Yichyu metecha, tes morts revivront. Nevelati yekumun, leur cadavre se lèvera. Hakitsu, réveillez-vous. Veranenu, réjouissez-vous. Shorne afar, résident de la poussière. Kital orot talecha, car c'est une rosée de lumière que t'as rosée. Veeretz refaim, tapil. Et tu abattras les géants au sol. Donc on voit que le prophète dit en toutes lettres que les morts vont ressusciter. Qu'est-ce que répondent les chrétiens à ça? Mais pas du tout, nenni. Vedilma, dilma, metim sheyechia yecheskel. Peut-être que les morts qui vont ressusciter, dont parle Isaïe, sont les morts ressuscités par Ézéchiel. Shtuyot, bemit, sagvaniot. Explique-toi, pourquoi.
À chaque fois, ils ne sont pas d'accord avec lui. Donc
oui, mais là, j'ai un autre problème. Si déjà, ils sont d'accord que Ézéchiel a ressuscité des morts, donc, pas par Yeshayahu, mais par Yeheskel, on a la preuve que Dieu ressuscite les morts.
Mais oui, c'est ça, ils essaient de
trouver. Non, mais j'aimerais comprendre la logique. La Torah, la Gemara n'amène pas des bêtises. Elle amène des objections. Est-ce que Dieu ressuscite les morts?
Si Dieu il donne déjà la vie, un enfant, pourquoi il ne pourrait pas la donner à un mort?
Je ne suis pas contre, mais est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait ou pas?
Bah, c'est pas un homme qui a le pouvoir de faire ressusciter.
Alors, si un homme, il demande à Dieu de faire ressusciter.
Non!
Dieu, il peut le faire. Un homme, il demande à Dieu de ressusciter. C'est peut-être un homme qui n'a pas de vie avec Dieu.
Non, mais ma question n'est pas là. Vous ne comprenez pas le problème. La question n'est pas de savoir est-ce que Dieu a la capacité de ressusciter les morts ou pas. Le problème, c'est de savoir est-ce que Dieu le fait. Alors, si Yeheskel a fait, alors pourquoi pas Dieu? Dans ce cas-là, il le fait. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens ont... Pourquoi est-ce que Rabban Gamliel aussi a amené un verset de Yeshayahu, alors que c'est écrit en toutes lettres dans Yeheskel? Bizarre, non? Bizarre, quand même. Bon, eh bien, ça veut dire qu'on ne sait pas lire le texte d'Yeheskel. Et donc, il faudra, pour bien le lire, bien le comprendre, se réunir la prochaine fois. Shalom.